Monsieur Olivier vient de vous présenter certains aspects un peu innovants ou qui sont éloignés du service médical rendu ou de la clinique, et je vais continuer. Il faut dire que ce matin, j'ai été aidé par la présentation de M. Vitalet, puisque vous verrez que dans le survol bibliographique de travaux récents sur les approches in vitro, ce qui prouve que notre recherche bibliographique est correcte, il y a les deux articles que vous a présentés M. Vitalet à la fin de son exposé. Donc ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu l'esprit dans lequel il vous a présenté sa conférence, c'est que certaines approches, encore une fois éloignées de la clinique, qui ne sont pas cliniques, qui ont une volonté mécanistique, explicative, peuvent rendre service aux cliniciens et à l'utilisateur des eaux thermales, c'est-à-dire pour mieux comprendre l'efficacité des eaux thermales. Alors je vais un peu définir un terme que peut-être certains connaissent peu ou connaissent mal, c'est comment définit-on l'in vitro par rapport à l'in vivo. L'in vivo, ce sont les études classiques sur des animaux, sur des patients, où vous avez une intégrité de l'individu dans son sens complexe et intégré. Et à partir du moment où vous utilisez des modèles plus restrictifs, plus simples, comme M. Vitalet qui vous a parlé de cellules ou de cultures, c'est ce que nous allons montrer là, vous abordez le domaine de l'in vitro, où nous avons affaire à des structures plus simples, qui ne font plus appel à l'intégrité d'un individu dans son totum, mais qui permettent d'être des cibles moléculaires, cellulaires, qui peuvent être utilisées aussi bien dans des recherches traditionnelles, et les modèles in vitro sont largement utilisés depuis une vingtaine d'années, aussi bien en pharmacologie qu'en toxicologie. Dans notre laboratoire, on a eu travaillé sur la toxicologie rénale, la pharmacologie cardiovasculaire. Certaines études, d'ailleurs in vitro, ça a été dit ce matin, montrent de bonnes études corrélatives avec l'in vivo, et ont précisé, c'est surtout l'intérêt de ces modèles, préciser l'effet cible d'une substance sur un type cellulaire donné. Mais aussi, au point de vue thermal, de la recherche thermale, depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de modèles ont été proposés, notamment à l'Université de Bordeaux, sur des modèles de peau humaine, ou alors sur des modèles de culture cellulaire. Et dans la littérature, on voit des études sur les fibroblastes, sur les cellules musculaires, osseuses ou cartilagineuses, et on a montré qu'il existait des corrélations avec des études sériques et des marqueurs de l'inflammation chez des patients arthrosiques, qu'il existait des corrélations avec des marqueurs de différenciation pour des cellules cutanées. Les données bibliographiques récentes qui sont dans le document que nous vous avons remis, qui est donc élaboré par l'équipe scientifique de l'Institut, où nous avons colliger à peu près une centaine de références les plus modernes dans les différents domaines de la recherche en thermalisme, et je ne vous parlerai que des modèles in vitro qui sont, je dirais, ma compétence. Et vous allez voir que j'ai retenu, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais j'ai retenu un certain nombre de modèles dont l'intérêt, on retrouvera les cellules cutanées étudiées ce matin, on parlera de cellules articulaires, de cellules inflammatoires. Eh bien, elles ont toutes comme but de rechercher les cibles moléculaires, les mécanismes intimes, lorsque vous recevez un traitement par des eaux ou par des produits thermaux. Et vous verrez que, comme c'était dit encore ce matin, l'explication des effets complexes des eaux thermales peut être approchée par ces modèles in vitro. Alors, très brièvement, je couperai en trois parties quelques exemples. Je prendrai des exemples de kératinocytes pris chez des peaux de patients psoriasiques. Je prendrai l'exemple de modèles de rhumatisme, de rhumatologie, sur chondrocytes et sur fibroblastes des articulations. Et je terminerai, mais rapidement, puisque ce sont les travaux que vous a cités et dont vous a parlé largement en détail ce matin, c'est les travaux de Mirandola Rinaldi, c'est-à-dire l'équipe de monsieur. Alors, l'étude sur les cultures de cellules de peau. Je vais être assez bref, mais je vais vous montrer quelques exemples de l'intérêt que peuvent présenter ce genre d'études. C'est une étude donc récente qui a été menée en 2008 et qui a utilisé des extraits issus de boue et de microalgues Et ces extraits ont été mis sur des cultures, sur des modèles, donc in vitro, de cultures primaires de kératinocytes, on vous en a parlé ce matin, qui sont l'un des constituants de la peau, et de fibroblastes de peau humaine normale. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Lorsque l'on met ces extraits, on remarque qu'ils stimulent les marqueurs de différenciation des kératinocytes, qu'ils inhibent l'expression de certaines protéines induites par les radiations ultraviolettes et qu'ils régulent l'expression de gènes du collagène induites par les radiations ultraviolettes. Qu'est-ce que ça apporte et quels sont les ponts avec la clinique? Eh bien, c'est qu'on peut considérer que de tels travaux peuvent être un moyen d'expliquer comment on peut améliorer la fonction de barrière cutanée et du vieillissement actinique au niveau de la peau humaine par l'ésothermal. Un autre exemple, ce sont des travaux italiens qui ont été menés sur des eaux thermales dans le nord de l'Italie, où sur le même principe, ils ont travaillé sur des cultures cellulaires de kératinocytes humains issus de patients psoriasiques. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué, sans rentrer dans les détails? Qu'un certain nombre de marqueurs de l'inflammation, notamment l'interleukine 8 ou le TNF-alpha, était présenté une chute brutale lorsque l'on traitait ces patients, ces cellules de patients, par les eaux de Comano. Et je pense que, comme disait ce matin M. Vitalet, ce genre d'études démontre les effets bénéfiques de la balnéothérapie dans certaines manifestations cliniques, notamment le psoriasis. Et ces auteurs ont présenté deux travaux, l'un sur l'interleukine 8 et le TNF-alpha, et l'autre, qui est intéressant, c'est un facteur de croissance endothéliale vasculaire qui lui aussi est impliqué dans l'inflammation chez les patients psoriasiques. Et là encore, on s'aperçoit que le traitement par les os induit une chute significative de ces jasons d'inflammation. D'autres exemples ont été menés sur des cellules conjonctives, donc des cellules qui ont trait au cartilage, à l'os, et qui bien évidemment jouent un rôle important. Il y a quelques années, nous avions mené une étude avec l'aide de la FRET, sur un protocole d'étude qui mettait la faisabilité d'un potentiel chondroprotecteur de certaines eaux minérales sur des modèles in vitro, c'est-à-dire sur des modèles de culture de chondrocytes articulaires humains. Et nous avons pu valider un modèle en montrant que l'on pouvait suivre la prolifération cellulaire, la présence de marqueurs spécifiques de différenciation. Nous avions choisi deux métaux qui sont connus comme ayant une affinité pour l'os et le cartilage, le strontium et le manganèse. Et nous avions pu valider ce modèle qui mérite bien sûr d'être prolongé. Ce genre d'études in vitro mérite d'être prolongé par des études cliniques. Mais il est bien évident que ça montre l'intérêt de mettre au point des méthodes in vitro pour essayer justement de comprendre l'efficacité de certains constituants des eaux thermales. Un travail très intéressant, plus récent, a été mené sur un modèle particulier des synoviocytes. Alors, si vous dites peut-être rien, ce sont tout simplement des fibroblastes qui sont issus des articulations. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché, ces chercheurs? Ils ont essayé de montrer quelle était l'influence d'une augmentation de la température. Ça vous rappelle des choses, hein, lorsque on met de la boue à certaines températures. Eh bien, ils ont fait varier la température de 37 degrés à 41 degrés. Et ils ont remarqué que lorsqu'on élevait la température ambiante de ces cultures cellulaires, on avait une réduction très significative du relargage d'agents inflammatoires, comme les prostaglandines, comme les interleukines. Et encore une fois, ces approches in vitro débouchent sur la clinique en démontrant l'importance d'une augmentation ici de la température sur des cellules articulaires en culture et de voir qu'on peut expliquer comment on peut lutter contre l'inflammation dans les articulations. Le dernier exemple, et là je serai bref puisque ce sont les travaux qui vous ont été présentés ce matin, je n'ai pas fait trop d'erreurs dans les interprétations, je vous ai rapporté les deux travaux de M. Vitalet, de Mirandola, toujours sur les dérivés soufrés. Et quelles étaient les conclusions? Elles sont tout à fait dans le même esprit. Les conclusions sont que les dérivés soufrés désactivent les principaux acteurs de la réponse inflammatoire. Il disait ce matin que connaissant ces effets protecteurs des eaux thermales sulfurées, c'est un moyen d'expliquer leur intérêt dans le traitement du psoriasis. De même, et il avait repris ses conclusions lorsqu'il étudie les processus différentiels de l'impact des granulocytes ou des lymphocytes, si vous vous rappelez ce matin, et il terminait en disant que les dérivés sulfurés thermaux contribuent à la prévention et au traitement de pathologies chroniques. Il prenait le tract digestif, le tract pulmonaire. Et encore une fois, si vous voulez, l'intérêt de ces travaux, comme il disait ce matin, c'est de penser que, certes, ce sont des études, jamais on ne dit qu'on fait des études cliniques, mais ça débouche sur la clinique. Parce que si on comprend les mécanismes intimes cellulaires, moléculaires, de certains constituants des eaux thermales, ça peut être une voie de recherche pour monter des protocoles cliniques, et c'est ce que je mets un peu en conclusion, que dans la mesure où on peut démontrer une influence indiscutable sur des voies de signalisation ou des marqueurs impliqués dans certaines pathologies cellulaires, ceci ouvre la voie à des études cliniques et associées à des études in vitro, c'est notre mission, vont contribuer à l'approbation scientifique de l'efficacité des eaux thermales. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais remercier d'abord les organisateurs pour nous avoir invités, M. Bernard Olivier et moi-même, pour ce congrès, et me permet de présenter mon sujet qui s'appelle les micro-organismes de l'extrême. Il s'articulera autour de deux axes, une présentation des bactéries extrémophiles et la présentation de mes premiers résultats de thèse intitulés « Caractérisation géomicrobiologique des aquifères thermaux du bassin aquitain ». Concernant les bactéries extrémophiles, elles peuvent être classifiées selon quatre groupes physico-chimiques, à savoir le pH, la pression, la salinité et la température. Je commencerai par le pH. Nous avons donc des bactéries dites acidophiles qui se développent à des températures, des pH optimum compris entre 2 et 6, et des bactéries dites alcalifiles qui se développent de manière optimum à des pH compris entre 8 et 12. Voici un exemple d'écosystème acide. Il s'agit du Rio Tinto en Espagne. La contamination est d'origine minière. Le pH de cette eau est voisin de 2 et on y retrouve généralement une espèce prédominante qui s'appelle, si elle veut bien paraître, Leptospirillum ferroxidans. Un autre exemple d'écosystème, il s'agit du lac Natron en Tanzanie. Il s'agit d'un lac alcalin, salé, comme la plupart des lacs alcalins du monde. Vous pouvez voir sur cette photographie deux colorations qui sont dues d'une part à l'ensoleillement et d'autre part à la salinité de l'eau. Généralement dans ces écosystèmes, nous retrouvons les bactéries telles que les cyanobactéries filamenteuses du genre Spirulina par exemple, ou des bactéries pourpres anoxygéniques telles que Alorodospira. Concernant la pression, nous avons donc des bactéries dites piézophiles. Ce sont des bactéries qui se développent à une pression optimale supérieure à la pression atmosphérique. Je citerai l'exemple des sources hydrothermales profondes. Il s'agit d'un fumeur noir de l'Atlantique, où a pu être isolée, par exemple, cette souche, la souche CNPT3, collectée à 5600 mètres, qui se développe de manière optimale à une température de 2 degrés et à une pression de 500 bars. Une deuxième souche, la souche NT41, collectée dans la fosse des Mariannes, qui elle se développe également à une température optimale de 2 degrés, mais à une pression de 700 bars. Venons-en à présent à la salinité. Nous avons donc des souches dites halophiles qui se développent jusqu'à 35 grammes litres de sel, et des souches dites hyperhalophiles qui se développent jusqu'à 300 grammes litres de sel, quasiment la saturation en eau. Je vous présenterai l'exemple du lac Redba ou lac Rose, très connu pour les personnes qui ont peut-être suivi le rallye Paris-Dakar. C'était le lieu d'arrivée au Sénégal, où a pu être isolée la souche Desulfolobium redbaense. Il s'agit de la bactérie sulfito-réductrice la plus halophile, puisqu'elle est capable de supporter quasiment 250 grammes litres de sel. Et enfin, pour terminer sur cette présentation, je vous présenterai donc les micro-organismes influencés par la température. On commence avec les bactéries psychrophiles, dont la température optimale commence à 5 degrés, jusqu'à arriver aux bactéries hyperthermophiles qui peuvent se développer jusqu'à une température optimale de 100 degrés et au-delà. Nous avons donc le célèbre parc de Yellowstone, très connu pour ses eaux sulfurées d'une température moyenne de 90 degrés, où a pu être isolée, une parmi beaucoup d'autres, la souche Thermodesulfovibrio yellowstoni, qui elle se développe à une température optimale de 66 degrés. On revient sur les sources hydrothermales profondes, toujours celle de l'Atlantique, où a pu être isolée la souche Pyrolobus fumari. Il s'agit d'un micro-organisme, il s'agit d'une archébactérie capable de supporter 250 bars de pression et qui se développe à une température optimale de 106 degrés et pouvant supporter 113 degrés. Ceci nous amène donc à la présentation de mes résultats de thèse sur la géomicrobiologie donc des aquifères thermaux du bassin aquitain, qui s'organisera donc sur trois axes, le choix des sources utilisées, la détection moléculaire du vivant et les isolements de bactéries. Le choix des sources. Nous avons opté pour l'eau minérale naturelle de Dax au travers de deux forages. Le premier forage, le forage Saint-Christophe, ici à Dax, 200 mètres à ma droite, à une profondeur de 150 mètres. Et le deuxième forage, le forage SPDX à Saint-Paul-et-Dax, qui lui est à une profondeur de 1600 mètres. La première partie, donc, la détection moléculaire du vivant a été réalisée par des amplifications PCR des ADN extraits, suivies de clonage et enfin séquençage du gène codant l'ARN16S pour nous permettre d'obtenir un arbre phylogénétique des clones détectés pour ces deux forages d'Ax et d'SPDX. Alors, désolé, mais les caractères sont un petit peu petits. Nous avons une première partie. Il y a une suite, je vous rassure, à la fin de l'arbre. Ces premiers clones détectés appartiennent au domaine des bactéries et la suite des clones détectés appartient au domaine des archaea. Parmi ces clones, nous retrouvons donc des genres thermophiles aérobies tels que Hydrogenophilus, des genres bactériens comme Thermus ou Scotoductus, qui est une bactérie anaérobie facultative thermophile, sur laquelle je reviendrai sous peu, et des bactéries hyperthermophiles anaérobies, telles que les thermococcales, archéoglobales, et le dernier, c'est les thermococcales et thermotogales, j'avais oublié. Nous avons donc isolé 7 clones pour l'échantillon de Dax et 6 clones pour l'échantillon de SPDX. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune corrélation entre ces deux forages en termes de microbiologie. Venons-en à présent aux isolements de bactéries. Plusieurs enrichissements ont été réalisés, les uns en anaérobiose et les autres en aérobiose, en conditions chimiotrophes, oligotrophes, et enfin des enrichissements plus spécifiques à base de dérivés soufrés ou azotés. Nous avons donc pu isoler un certain nombre de bactéries thermophiles et donc réaliser un arbre phylogénétique. La première souche isolée est une bactérie anaérobie stricte dont le plus proche parent phylogénétique est Desulfotomaculum kuznetsovi, cette souche ayant été également isolée d'une source hydrothermale profonde en Russie. La deuxième est une souche anaérobie facultative thermophile qui appartient au genre Geobacillus stérothermophilus, isolée dans de nombreuses sources hydrothermales profondes à l'échelle de la planète. Et le genre Geobacillus a été également retrouvé à Chaudes-Aig. La troisième bactérie est une bactérie anaérobie stricte, thermophile, sulfito-réductrice. Elle constitue un nouveau genre bactérien. Il s'agit de la première bactérie sulfito-réductrice thermophile à ce jour. Les deux genres que voici, il s'agit de deux bactéries anaérobies strictes thermophiles également. Toutes deux appartiennent au phylum des chloroflexies. Le plus proche parent phylogénétique, Calilinea aérophila, a été isolé d'un matalgal d'une source sulfureuse au Japon. Et la deuxième, il s'agit d'une bactérie qui a été détectée de manière moléculaire dans le parc national de Yellowstone. Et enfin, la dernière, il s'agit d'une bactérie anaérobie facultative, toujours thermophile, thermus scotoductus, que nous avons déjà détecté de manière moléculaire. Nous avons donc, au final, une bactérie identifiée de manière moléculaire et culturale, le thermus scotoductus, 5 autres bactéries identifiées de manière culturale, donc 3 appartenant à de nouveaux genres thermophiles. Mais également, nous avons donc 10 clones bactériens appartenant donc au domaine des bactéria et 2 clones appartenant au domaine des archaea. Nous pouvons donc conclure que l'ensemble des souches thermophiles isolées dans l'eau de Dax et de SPDX est retrouvé dans de nombreux hotspots de la planète, donc les sources hydrothermales japonaises, américaines, russes, grecques et françaises à Chaudes-Aigues. Nous avons également, parmi les bactéries retrouvées, certaines sont communément retrouvées dans les systèmes hydrothermaux terrestres, donc le thermus scotoductus également retrouvé à Chaudes-Aigues et le géobacillus stérothermophilus. Et l'eau minérale de Dax présente toutefois des originalités d'ordre taxonomique, puisque nous avons donc isolé la première souche sulfito-réductrice thermophile et également 2 nouveaux genres appartenant au phylum des chloroflexies. L'ensemble de ces résultats nous permet de nous poser une question, à savoir si toutes ces souches ont ou non une importance géomicrobiologique dans les eaux minérales naturelles ou les sources hydrothermales de la planète. Je vous remercie pour votre attention.
Je vais donc vous parler de la valorisation des eaux minérales de salice de Béarn. Mon intervention vous parlera exclusivement de la production d'eau mer. Je vous dirai simplement quelques mots sur la fabrication de sel thermal. Pour cette présentation, j'aimerais associer l'équipe qui a travaillé sur ce sujet, à savoir Joël Lagière, Christelle Détieux et Sandra Biasouti. Et je souligne aussi la présence de nos collègues de Salis de Béarn qui nous ont aidés à réaliser cette étude. Pour commencer, donc, les eaux minérales de Salis de Béarn sont issues essentiellement de 2 forages, le forage d'Horas et le forage Catherine de Bourbon. Notre étude a été faite sur le forage d'Horas. Les eaux minérales de Salis de Béarn sont des eaux minérales froides aux propriétés chlorurées sodiques fortes. Et je vous le rappelle, les indications de cette station thermale sont essentiellement la rhumatologie et accessoirement la gynécologie et la pédiatrie. Notre étude a eu un double objectif, produire de l'eau mère tout d'abord. Alors je vais vous rappeler ce qu'est l'eau mère. C'est un concentré d'eau minérale naturelle qui est obtenu par évaporation et chauffage et qui présente des propriétés thérapeutiques très intéressantes grâce à ses fortes concentrations en minéraux. Donc, l'objectif donc, a été de produire de l'eau mère et trouver un processus de fabrication de sel thermal à valeur constante et reproductible. La finalité de ce travail est d'optimiser et de modéliser un système de production d'eau mère et de sel thermal, surtout reproductible, pour une application industrielle intéressante pour l'exploitant. Matériel et méthode. Donc, nous avons utilisé un bécher dans lequel nous avons mis 2 litres d'eau minérale naturelle de salice de Béarn, dans lequel on a plongé un agitateur. Ce bécher était plongé dans un bain d'huile siliconée, et en chauffant, nous avons donc produit de l'eau mère et différentes catégories de sel. En surface de la fleur de sel, au fond du bécher sur les côtés du sel fin, et au milieu des billes de sel thermal, qui ont été obtenues grâce à l'agitation. 3 campagnes d'essais ont été réalisées. La première campagne, 6 essais, qui nous ont permis de déterminer les conditions opératoires optimales pour les essais suivants. Donc la deuxième campagne, 3 essais, ABC, dans les conditions opératoires que je vous définirai tout à l'heure. Et nous avons pratiqué des analyses physico-chimiques, des eaux mères et des sels par les méthodes analytiques classiques. Et enfin, la troisième campagne d'essais, les essais DEF, toujours dans les mêmes conditions opératoires. Cette fois-ci, nous avons pratiqué des analyses des eaux mères et des sels par chromatographie ionique. Je vais donc vous présenter les résultats sur les eaux mères. Alors, il est important de préciser en introduction que nous avons travaillé sur ces eaux du forage d'eau mère mais une instabilité de la composition initiale de l'eau nous ont donné des résultats bien évidemment assez variables. En référence, pour ces essais, nous nous sommes appuyés sur une analyse réalisée par le laboratoire hydrologie environnement de Bordeaux, et cette analyse datait de décembre 1999. Les résultats de notre première campagne, donc, ils nous ont permis, comme je vous le disais, de déterminer les conditions opératoires de nos essais suivants. Donc, la température de l'eau minérale dans le bécher était de 60 degrés. La température du fluide, à savoir l'huile siliconée, était de 70 degrés. La vitesse de rotation de notre agitateur avait été réglée à 500 tours par minute. Et la vitesse de chauffe était d'environ, le temps de chauffe, pardon, était d'environ 30 heures. Les deuxième et troisième campagnes, comme je vous l'ai dit précédemment, ont été réalisées dans ces conditions opératoires qui ont été définies lors de la première campagne. Les résultats, pour commencer, les paramètres physiques. Donc, je me suis appuyée sur les essais A, B et C, avec un temps de chauffe, comme vous pouvez le voir, le premier à 30 heures, le deuxième un peu plus à 31 heures passées, et le dernier essai à presque 25 heures. Et nous voyons que le volume final de l'eau mère est très variable. Par exemple, à 30 heures, on a un volume final de 520 millilitres. Je vous le rappelle qu'au début, nous avions 2 litres d'eau minérale naturelle. Et pour 24 heures et demie, il nous reste un volume de 830 millilitres d'eau mère. Ce résultat peut être corrélé à la masse de sel sec que nous avons obtenue. Toujours pour 30 heures, nous avons 335 grammes de sel sec, et pour 24 heures et demie, environ 234 de masse de sel sec. On peut également montrer au travers de ce tableau que l'eau devient de plus en plus basique au cours de la chauffe. Et ce qui est intéressant à remarquer sur ces paramètres physiques, c'est que la cristallisation apparaît aux environs de 16 heures. Et cela, on l'observera également dans le cadre des résultats chimiques que je vais vous présenter dans les diapos suivantes. On peut également corréler cette cristallisation avec la stabilisation de la masse volumique qui semble correspondre à l'apparition des premiers cristaux de sel. Je vais maintenant m'attarder sur les paramètres chimiques des eaux mères. Pour commencer, je vais parler du calcium. On avait une concentration en analyse de référence du calcium qui était d'environ 1,17 g par litre. Nous, nos concentrations en laboratoire à T0, nos concentrations moyennes, étaient d'environ 0,9 g par litre. Donc vous voyez déjà cette différence entre l'analyse de référence de 99 et nos moyennes d'analyse du calcium en laboratoire. Toutefois, le calcium atteint une valeur maximale de 1,4 g par litre aux environs de 16 à 20 heures de chauffe. Puis, nous observons une chute de cette concentration de calcium qui peut atteindre des valeurs inférieures à notre T0. Cette diminution de la concentration du calcium pourrait correspondre à la cristallisation cette diminution correspondrait à une cristallisation du calcium qui serait dirigée effectivement par la formation de gypse, en l'occurrence CaSO4. Concernant le magnésium, donc une concentration de magnésium avec une analyse de référence à 0,60 g par litre et une concentration moyenne de nos analyses à 0,60 g par litre, donc peu de différence. Le magnésium se concentre continuellement au cours de la chauffe pour atteindre au bout de 30 heures une valeur d'environ 1,85 g par litre, et nous pensons que si nous chauffions encore quelques heures, la concentration en magnésium continuerait à augmenter. Le potassium maintenant, donc une analyse de référence à 1,75 g par litre, des analyses en laboratoire en moyenne à 1,26 g par litre. Comme le magnésium, le potassium augmente de façon exponentielle au cours de cette chauffe. La saturation n'est pas obtenue au bout de 30 heures et nous pensons, comme pour le magnésium, que cette concentration continuerait à augmenter si nous chauffions au-delà de 30 heures. Le sodium maintenant, donc une analyse de référence à 116 g par litre, une valeur moyenne en laboratoire à 106 g par litre. Une légère augmentation de la concentration au sodium au cours des 10 premières heures de chauffe, puis une stabilisation à environ 125 grammes par litre. Pour les chlorures, une analyse de référence à 177 grammes par litre, pour une analyse en laboratoire en moyenne à 156 grammes par litre. Vous le voyez, une bonne reproductibilité des essais, une augmentation jusqu'à 10 heures de chauffe, puis une stabilisation aux environs de 195 grammes par litre. Enfin, les sulfates, où il y a une représentation assez anarchique des résultats. Une analyse de référence du SO4 de moins à 2,25 grammes par litre, pour un T0 au laboratoire à 4,5 grammes par litre. Une grande différence par rapport à l'analyse de référence. Et nos recherches bibliographiques nous ont même montré que nous pouvions avoir des concentrations SO4 de moins à 5,5 grammes par litre en moyenne. Donc une augmentation assez similaire de tous nos essais jusqu'à 16 heures, donc jusqu'à cette cristallisation, puis une évolution anarchique avec un manque de reproductibilité. Alors des hypothèses sont émises, nous avons fait un petit peu de biographie, et selon Tamer et Hall, il y aurait une formation de sels de sulfate progressif, avec notamment précipitation de carbonate et de sulfate de calcium lors de la phase d'évaporation. Alors, quelques conclusions sur l'eau mère. Donc, nous l'avons vu, hétérogénéité de l'eau minérale de départ, donc du forage d'Horace en l'occurrence, en raison des variations saisonnières et du pompage qui n'est pas constant dans le temps. Donc, nous souhaitons continuer des essais, mais en utilisant le deuxième forage de la station, le forage Catherine de Bourbon, dans les cadres des travaux ultérieurs, puisque je vais vous en parler tout à l'heure. Nous avons entamé depuis le mois d'octobre des travaux de thèse sur ce sujet. Donc, une conclusion certaine, c'est que notre cristallisation débute aux environs de 16 heures de chauffe, dans les conditions opératoires que je vous ai définies tout à l'heure. Nous avons essentiellement, les résultats présentés étaient essentiellement des résultats dans un premier temps, avaient été réalisés par des méthodes analytiques classiques, mais ils ont été confirmés par méthode de chromatographie ionique dans la troisième campagne. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a une augmentation de tous les minéraux jusqu'au début de la cristallisation, puis après cette cristallisation qui se fait donc à 16 heures de chauffe, il y a un comportement différent des ions selon tel ou tel ion. Augmentation du magnésium et du potassium, chute du calcium, stabilisation du sodium et des chlorures, et une évolution aléatoire des sulfates, pouvant traduire, comme je vous l'ai dit, des phénomènes de coprécipitation. Juste un transparent maintenant sur nos résultats sur les sels, sur les différentes catégories de sels que nous avons obtenues. Comme je vous le disais tout à l'heure, trois catégories de sels sont obtenues au cours de cette chauffe et cette agitation. Du sel fin sur les parois du bécher, de la fleur de sel en surface et des billes de sel qui pourraient avoir un aspect commercial intéressant pour l'exploitant. Et cette granulométrie aurait tendance à augmenter au cours de cette chauffe. Nous avons pratiqué des analyses physico-chimiques du calcium, du magnésium et du potassium, mais les résultats ne sont pas très intéressants à exploiter à l'heure actuelle, et on pense qu'il y aurait sur nos billes de sel des couches. Donc nous avons obtenu des résultats très très différents selon que nous aurions pris lors du broyage telle ou telle partie du grain de sel. Donc c'est très aléatoire. Donc pour l'instant, les résultats que nous avons obtenus ne sont pas du tout exploitables. Conclusion et perspective. Pour travailler correctement, il faudrait qu'on ait un produit de départ constant. Donc effectivement, nous nous orientons vers le forage de Catherine de Bourbon plutôt que celui d'Horace. Ça nous permettrait d'obtenir déjà dans un premier temps une eau mère reproductible et bien évidemment des billes de sel reproductibles. Toutefois, au cours de ces essais, nous avons compris le phénomène de cristallisation qui va être enrichi par des travaux que nous venons de débuter avec l'école d'ingénieurs de l'UPPA de Pau, puisque comme je vous le disais, nous venons d'entamer des travaux de thèse avec une étudiante doctorant, une allocation de recherche qui est financée par le Conseil général des Landes. Cette personne va mettre au point un modèle mathématique expliquant le phénomène de cristallisation Au printemps prochain, nous ferons une expérimentation sur pilote type laboratoire avec des réacteurs en cascade, ce qui pourrait aboutir à la réalisation d'un pilote de type taille industrielle. Je vous remercie.
Je vais vous parler des piscines thermales, de la désinfection des piscines thermales et les premiers travaux. Concernant donc la désinfection que l'on a entamée depuis un an à peu près. Ce sont des travaux préliminaires en vue de travailler sur le pilote qu'il y a au plateau technique. Donc nous avons travaillé selon les recommandations de la DAS qui nous a sollicité pour travailler sur ce sujet et de trouver une alternative aux dérivés chlorés. Les dérivés chlorés posent des problèmes. Donc, il y a formation des chloramines dans les bassins. Et ces chloramines sont nocives pour les baigneurs et également pour le personnel. Donc, on a choisi de travailler sur un produit qui s'appelle le BCDMH. Le BCDMH, c'est un produit chimique de structure hydantoïne avec un produit de deux halogènes sur la structure, le chlore et le brome. Le mode d'action de ce produit réagit sur deux molécules d'eau pour donner les deux principes actifs, l'acide hypochloreux et l'acide hypobromeux, plus le sous-produit qui est la diméthylhydantoïne. En présence de bactéries, l'acide hypobromeux réagit très rapidement pour donner des bromures et détruit l'ADN de la bactérie. Les bromures réagissent ensuite sur la molécule acide hypochloreux pour donner l'acide hypobromeux et des chlorures. Nous avons choisi ce désinfectant par rapport à notre étude qui se place dans des conditions chaudes, les conditions de rhumatologie, et les eaux que l'on utilise, l'eau de Dax, est une eau plutôt basique. Le brome est efficace lorsqu'on se place à des pH de l'ordre de 7 à 8, où 80% de la forme active acide hypobromeux réagit, alors qu'à ce même pH, l'acide hypochloreux n'est présent qu'à 20%. D'où l'intérêt d'utiliser le brome pour des eaux comme les eaux de Dax et dans des conditions de rhumatologie. Nous avons également choisi ce désinfectant par rapport aux sous-produits qui sont engendrés. Les bromamines sont formées, ça c'est comme pour le chlore, les chloramines sont formées, mais dans ce cas, les bromamines sont instables. Donc, elles redonnent très rapidement l'acide hypobromeux. C'est très intéressant parce qu'elles sont considérées très désinfectantes, comparables à l'acide hypobromeux. Et par conséquent, elles n'ont pas d'odeur désagréable comme les chloramines, surtout les trichloramines qui sont gazeuses. Elles irritent les muqueuses, elles irritent les yeux et elles provoquent de l'asthme. Dans ce cas-là, on n'a pas ce problème. D'où l'intérêt également donc, de travailler avec le brome. De plus, la stabilité du bassin au niveau pH est maintenue. On se situe aux alentours de 7,8 à 8 en pH. Donc, on n'a pas besoin de faire de correction de pH comme pour le brome, surtout lorsqu'on utilise l'eau de Javel, où, bien sûr, le pH monte puisqu'on crée de la soude. Donc, il faut faire une correction de pH. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire de correction de pH. Je vais maintenant vous parler du travail sur l'effet bactéricide du brome et du chlore par rapport à trois espèces bactériennes. Mais avant tout, il faut étudier la demande en Occident, puisque bien sûr l'eau minérale de Dax, comme toutes les eaux minérales, possède des ions oxydables. Alors des ions oxydables, bon, couramment c'est le fer 2, l'ammonium, également le manganèse de plus. Donc ce sont trois ions oxydables qui se trouvent présents dans l'eau de Dax. Donc il faut étudier la demande en chlore et en brome. Donc pour le cas du chlore, nous avons effectué un essai d'effet bactéricide en injectant 2,5 mg de chlore pour avoir un chlore libre égal à peu près à 1 mg par litre. Dans le cas du brome, le profil d'absorption est un peu plus compliqué. Nous avons effectué 3 essais pour le brome. On s'est situé à peu près à 1 mg, un peu plus de 1 mg de brome total ajouté pour avoir à peu près 1 mg de brome total mesuré. Nous sommes intéressés aussi au creux de cette courbe pour avoir 0,6 mg par litre de brome total ajouté mesuré. Et après, nous sommes mis sur la partie droite linéaire pour avoir encore pour se placer au-delà de ce creux. Donc l'étude de l'effet bactéricide a été faite sur Pseudomonas aeruginosa, donc comparaison du brome et du chlore. Alors le chlore sous forme d'hypochlorite de sodium et le brome sous forme de BCDMH. Comme je vous le disais, avec une concentration à peu près de l'ordre de 1 mg par litre pour le chlore et le brome, on s'aperçoit ici dans la courbe qui est rouge, donc c'est le cas du chlore, il y a élimination au bout de 2 minutes, alors que dans le cas du brome, il y a élimination au bout de 90 secondes, soit 1 minute et demie. Les deux autres courbes, ce sont donc les deux autres points que j'avais étudiés pour le brome. Et on s'aperçoit qu'il n'est pas nécessaire de surdoser le bassin en brome. Donc à peu près 1,1 mg par litre de brome est nécessaire pour éliminer toutes les bactéries. Donc, dans le cas de Pseudomonas aeruginosa, c'est une bactérie qu'on a l'habitude d'étudier à l'Institut. On a fait également une comparaison de trois espèces bactériennes, à savoir les Escherichia coli et les entéro. Bon, nous avons déjà les résultats en pseudo. La résistance au BCDMH est évidente ici, puisque on a par ordre croissant de résistance les E. coli, donc ici 2 minutes, les pseudo 90 secondes et les entéro 30 secondes. Donc en partant bien sûr d'une désinfection au brome à 1 mg par litre. En conclusion, nous voyons bien l'intérêt d'utiliser le BCDMH dans le cas d'une eau chaude, plutôt chaude dans des conditions de rhumatologie, et pour des eaux à pH plutôt élevées, c'est le cas pour l'eau de Dax. Nous avons donc montré ici une meilleure activité désinfectante du brome par rapport au chlore, et en utilisant un peu moins de brome, puisque lorsqu'on a travaillé avec le chlore, il nous fallait plus de 2,5 mg par litre de chlore ajouté afin d'avoir 1 mg de chlore libre. Alors qu'il nous faut à peine 1 mg par litre de brome injecté pour avoir la même chose en brome total mesuré. Quelles sont nos perspectives ? Nous sommes en train de travailler au plateau technique sur une simulation avec le pilote eau thermale, piscine eau thermale, de 2500 litres et dans les conditions de rhumatologie de 35 degrés. Nous avons par contre modifié les paramètres puisqu'ici, nous allons étudier la pollution organique azotée, en plus de la pollution microbienne. Et nous avons donc prévu de faire baigner 4 baigneurs pour la capacité de 2500 litres. C'est le maximum qu'on puisse faire avec cette capacité. Donc là, on va apprécier l'absorption du brome en présence de cette pollution organique azotée et de la pollution bactérienne. Alors le but de cette étude, c'est de trouver la dose efficace de brome, une dose bien sûr minimum qui permet d'avoir zéro bactérie pathogène, puisque c'est l'exigence de la norme. Ce qui est assez difficile, voilà. Donc la théorie, on va essayer de trouver la dose vraiment minimum. Alors, on sait qu'au niveau de la norme en brome total, il faut se situer entre 1 et 2 mg par litre. Mais c'est dans le cas de l'utilisation de brome liquide. Alors que là, maintenant, on se trouve en présence de brome solide, enfin de BCDMH, et là, je pense qu'il faudra certainement modifier la norme. C'est ce qu'on recherche maintenant. Donc, d'essayer de trouver vraiment la norme adapté pour éliminer toutes les bactéries. En plus de cette étude sur la dose efficace, on prévoit l'étude des sous-produits. C'est très important puisque, bien sûr, lorsqu'on utilise des produits chimiques, on crée également des sous-produits qui sont potentiellement nocifs ou même, voire, cancérigènes. Alors, nous avons bien sûr le sous-produit qui est prépondérant, c'est la diméthylidantoïne, qui, au niveau de l'étude de Biblio, ne pose pas trop de problèmes au niveau de la nocivité, mais il ne faut pas dépasser 200 mg par litre. Donc, on va étudier la quantité, enfin la teneur de ce sous-produit dans le bassin. Également, on va étudier la teneur en triolométhane, ce sont surtout le bromoforme, enfin un peu le chloroforme, puisqu'on a aussi de l'acide hypochloreux, donc on peut générer du chloroforme, mais surtout du bromoforme. Là aussi, on a des normes à ne pas dépasser de 100 microgrammes par litre. Donc là aussi, on va vérifier si on ne dépasse pas ces valeurs. Et en dernier lieu, les bromates, puisqu'on travaille avec le BCDMH, donc on fabrique des bromures qui peuvent s'oxyder en bromate. Et là aussi, on regardera la teneur dans l'eau du bassin. La norme nous dit qu'il ne faut pas dépasser 10 microgrammes par litre, puisque ce bromate a des effets cancérigènes, potentiellement cancérigènes. Voilà. Je vous remercie.
Donc je vais vous présenter les premiers résultats et puis le protocole d'une étude un peu pilote que nous avons essayé de monter sur Dax et Saint-Paul-les-Dax qui visait à suivre les curistes pendant la durée de leur cure afin d'observer toutes les manifestations qui peuvent survenir pendant cette cure. Donc le terme iatrogène est un terme un peu scientifique qui s'applique aux médicaments et donc à la survenue des manifestations liées à la prise d'un médicament. Donc dans le domaine du thermalisme, c'est un peu différent puisque justement on se pose la question de est-ce que les effets que nous voyons apparaître sont liés ou non à la cure thermale. Donc le travail a été fait par l'équipe de l'Institut avec une étudiante en master de santé publique. Alors, l'objectif de l'étude, c'était de recenser les manifestations de tout type, donc à savoir bien sûr les infections, comme ça a déjà été fait dans d'autres stations, mais également les traumatismes, les exacerbations de pathologies déjà présentes ou justifiant la cure pour la personne, concernant tous les appareils de l'organisme, respiratoire, cardiovasculaire, etc. Et effectivement potentiellement liés aux soins ou au contexte global de la cure. Donc j'insiste sur le terme évidemment potentiellement. Tout ça évidemment dans un objectif, je dirais, plus général de contribuer à mieux évaluer le rapport bénéfice-risque de la cure thermale, toujours dans cette problématique de mieux déterminer le service médical rendu par le thermalisme. Donc évidemment, notre étude n'est qu'un tout petit aspect. Voilà. Alors comment avons-nous procédé? Donc trois acteurs ont été impliqués ou seront impliqués puisque l'analyse des résultats n'est pas terminée. Bien sûr, l'Institut qui était l'investigateur et qui a coordonné un peu l'étude et la participation des différents acteurs, qui s'est occupé du recueil et de l'analyse des données et puis qui s'occupera aussi de diffuser les résultats de cette étude. Les médecins thermaux sont le pivot de notre étude puisque c'est eux qui, donc évidemment, sont les acteurs de la prise en charge du curiste et qui, que nous avons sollicité évidemment pour notifier l'apparition de toutes les manifestations indésirables pendant la cure. Et enfin, nous solliciterons aussi les établissements thermaux afin de connaître leurs données de fréquentation et les contrôles microbiaux qu'ils ont pu effectuer pendant la période de l'étude. Mais bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore été jusqu'à cette étape. Voilà, donc des contacts téléphoniques ont été pris avec tous les médecins thermaux, enfin tous les médecins impliqués dans le thermalisme de Dax et de Saint-Paul-les-Dax. L'étudiante s'est également rendue au cabinet des médecins et une réunion d'information et de concertation a eu lieu à l'Institut où nous avons présenté aux médecins présents le protocole, discuté avec eux de comment ils pressentaient leur participation, etc. Donc le protocole a été modifié, réécrit à la suite de cette réunion et des entretiens qui ont pu avoir lieu en cabinet. Voilà. Donc il a été décidé de tirer au sort des curistes pour que ce ne soit pas au médecin de choisir quel curiste il va inclure dans son suivi. Donc un cinquième des curistes pris en charge par chaque médecin a été tiré au sort et donc le nombre de correspondants de dossiers a été fourni aux médecins. Donc ce nombre de curistes suivis était adapté vraiment à semaine par semaine à l'activité du médecin. Donc il y a eu des contacts très fréquents entre l'étudiante et puis les médecins participants, et avec des passages fréquents au cabinet pour déposer les dossiers, récupérer les dossiers, discuter avec les médecins, etc. Voici le déroulement de l'étude. Oui, c'est bien visible, c'est bon. Donc il a commencé en juin, et donc le questionnaire dont je vous parlerai après avait plusieurs parties. La première partie à remplir lors de la première visite du médical, une autre partie à remplir lors de la seconde visite, lors de la troisième visite, et enfin un questionnaire de suivi post-cure a été adressé par le biais du médecin qui a suivi le curiste pendant sa cure au médecin traitant, prenant le relais à la sortie de cure. Voilà, donc après, évidemment, la phase de saisie des données et d'analyse est en cours. Et évidemment, bien sûr, une phase très importante sera la communication des résultats et aussi un travail de retour d'expérience avec les médecins ayant participé pour s'améliorer, pour voir comment on peut reproduire l'étude les années prochaines, etc. Voilà, donc le questionnaire comporte trois parties, une par consultation, donc c'est ce que j'ai dit, qui sont conçues pour être remplies, on l'espère, suffisamment rapidement à chaque visite, donc sous forme de questionnaire à choix multiples, et puis évidemment aussi des parties à remplir de façon libre pour que le médecin puisse détailler un peu les événements qui se sont produits et éventuellement les actions entreprises pour y remédier. Voilà, donc une première partie qui permettait, en fait j'ai mis identification, mais pas vraiment, puisque on ne peut pas identifier les patients sur ce questionnaire. On a juste, nous, pour pouvoir ne pas les confondre entre eux, besoin de quelques renseignements, mais qui ne permettent absolument pas de revenir à la personne source. Et puis après, une partie qui permet de renseigner les antécédents médicaux, chirurgicaux et thermaux et les traitements médicaux pris pendant la période de la cure par le patient. Et puis des détails sur la cure, ses indications, les soins prescrits, etc. Concernant les deuxième et troisième consultations, donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet et les pathologies que vont présenter éventuellement, enfin les manifestations indésirables que vont présenter éventuellement les curistes vont être détaillées par type d'appareil ou d'organes touchés. Donc j'ai mis ici un peu la liste, nous avons essayé d'être à peu près exhaustif. Et puis, pour faciliter aussi le travail du médecin, les principaux effets indésirables que nous avons retrouvés dans la littérature, dans les autres études qui ont été faites dans d'autres stations ou d'autres régions thermales, ont été listés. Et puis, toujours une case autre permettait de détailler des pathologies éventuellement non présentes dans notre listing. Donc ça semble long, mais effectivement, il y a quand même rarement plusieurs effets indésirables. Donc le questionnaire est finalement pas très très long à remplir pour un seul effet indésirable. Donc voilà un exemple. Donc oui ou non, y a-t-il eu un événement indésirable? Combien a-t-il duré de temps en jours ou en minutes? Et puis là, on a pris l'exemple des incidents rhumatologiques. Donc vous voyez que nous avons listé la plupart des incidents mentionnés dans la littérature. Et puis une partie libre à côté permet aux médecins de détailler éventuellement les circonstances et les modalités de cet événement indésirable. Voilà, donc ensuite, une partie permet de détailler la prise en charge qui a suivi, l'évolution, y a-t-il eu besoin d'arrêter la cure ou non, et puis que pense le médecin sur l'imputabilité des soins thermaux ou des activités extrathermales sur cet effet indésirable. Voilà, donc l'étude a duré en tout 14 semaines. 13 médecins sur les 48 médecins que nous avions identifiés ont participé, donc ce qui fait un taux de participation de 27%, ce qui est pas mal puisque bon, c'est toujours des études qui prennent du temps, hein, à des professionnels qui sont déjà bien occupés. Environ 300 curistes ont été inclus, je vous dis ça parce qu'il y a des questionnaires qui n'ont pas encore été récupérés, donc le chiffre n'est pas encore complètement précis. Donc une moyenne de 30 curistes inclus par semaine et de 23 curistes inclus par médecin. Les médecins traitants, pour l'instant, ont répondu à un taux de 60%. Donc, on est aussi assez satisfait pour l'instant. Voilà. Donc, sur, y a un qui a sauté. C'est sur 161 dossiers qui ont été saisis, donc que nous pouvons analyser. L'âge moyen des curistes suivis est de 65 ans, presque 66. Et la rhumatologie étant la première indication, et 30% étaient en indication double rhumato-phlébologie, avec 78% de femmes et 22% d'hommes. Voilà. Donc ici, sur ce graphique, nous voyons que 77% des curistes suivis n'ont pas présenté d'effet indésirable lors de la première visite, donc pendant la première partie de cure. On n'a pas encore analysé les données pour la deuxième partie de la cure. Et 23% ont présenté un effet indésirable ou plus. Voilà. Alors, quels étaient ces effets indésirables? Parce que c'est ça qui nous intéresse, évidemment. La plupart de ces effets, près de 40%, étaient des effets de l'ordre de la rhumatologie, avec des douleurs et des exacerbations et également des tendinites. Dans le domaine de la dermatologie et de l'ophtalmologie, la plupart des effets mentionnés étaient des irritations, des prurites et une allergie. Nous avions également évidemment des infections des voies respiratoires ou ORL, à type de rhinite, rhinopharyngite, otite, et au niveau du système nerveux, des cas d'asthénie et de vertige, mais vraiment très peu fréquents. Et au niveau cardiovasculaire, les deux cas signalés sont un petit peu à plus approfondir pour mieux comprendre effectivement ce qu'on entend par manifestation iatrogène. Voilà. Donc, 7 curistes ont présenté deux événements ou pathologies intercurrentes pendant cette première partie de cure, et un seul curiste a présenté 3 événements ou pathologies intercurrentes. Donc, c'était soit des infections de l'appareil respiratoire, soit des manifestations rhumatologiques ou cardiovasculaires. Voilà. Donc, en conclusion, dans cette toute première analyse qui n'est pas du tout finie, on peut déjà préciser que 3/4 des curistes suivis n'ont pas présenté un effet indésirable lors de la première partie de la cure, que la plupart des pathologies observées sont bénignes et que dans ce qui concerne les infections respiratoires ou ORL, elles étaient assez banales. Donc évidemment, là tout de suite, on a les questionnements derrière. Est-ce que c'est des infections purement communautaires ou est-ce que effectivement, comme le précisait M. Forestier ce matin, est-ce que le fait d'être en cure thermale facilite un petit peu les transmissions d'infections respiratoires. Mais là, il faut quand même signaler que les quatre observés sont de quatre types différents. Donc il n'y a pas l'air d'avoir eu d'épidémie, entre guillemets, d'otite ou de rhinopharyngite. Il y avait une otite, une rhinopharyngite. Enfin, chaque type d'infection était différent. Ce qui nous semble intéressant à approfondir déjà, là, dans un premier temps, ce sont les irritations, prurites et allergies observées. Puisque là, évidemment, plusieurs questionnements, ce sont uniquement des questions, hein, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, peuvent se poser et seraient intéressants à étudier. Est-ce que ça peut être lié à la qualité de l'eau, notamment au traitement, comme on l'a vu précédemment avec la présentation de Joël, l'utilisation des boues, des douches térébenthinées, etc. Donc, il va être intéressant de faire des retours sur les questionnaires pour voir les soins qui avaient été prescrits à ces patients. Et puis concernant les douleurs rhumatologiques, les vertiges, l'asthénie, le lien avec la cure et ou avec la pathologie préexistante, évidemment, là on est vraiment dans la difficulté d'imputer ce type de manifestation à des patients qui ont déjà une pathologie qui amène à ce genre de manifestation. En perspective, donc évidemment, la participation des médecins thermaux, j'ai mis là des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on est exigeant, on voudrait toujours faire mieux. Et donc, nous, on considère comme un challenge d'essayer d'améliorer la participation des médecins. Donc, évidemment, essayer de travailler sur tout ce qui est communication, information, etc. En amont, avant de commencer un prochain suivi lors de la prochaine saison thermale, par exemple. Au sujet des médecins traitants, le problème qu'on a, c'est on les connaît pas et donc on leur transmet pas directement de l'information. Donc du coup, on n'a pas de contrôle sur l'information qu'ils reçoivent ou sur la perception qu'ils ont de l'étude. Donc là aussi, il y a peut-être des questionnements à avoir sur comment faire pour s'améliorer. Bien évidemment, le point le plus important pour s'améliorer, ce sera de transmettre déjà les résultats, de se concerter avec les médecins qui ont participé, afin de recueillir leurs ressentis, leur vécu d'expérience, leurs propositions d'amélioration, etc. Et puis bien évidemment, de communiquer les résultats auprès des curistes, des exploitants thermaux, et puis évidemment, dans un deuxième temps, d'améliorer la publicité autour de ce suivi pour que les curés soient au courant et que eux aussi soient moteurs pour participer à cette étude. Voilà. Et puis enfin, évidemment, on a aussi tout ce travail avec les exploitants thermaux, notamment pour récupérer leurs données d'exploitation, pour finir là l'exploitation des données, et évidemment pour, dans un deuxième temps, qu'ils soient aussi moteurs pour continuer ce type de suivi. Voilà, je vous remercie.
Il y a 2-3 minutes éventuellement pour quelques petites questions qui ont trait aux exposés de cet après-midi.
Autant je pense qu'il est utile et nécessaire de nous inscrire dans une démarche de démonstration du primum non nocere et de mettre en place un système de veille sanitaire, de veille épidémique concernant les curistes qui sont accueillis dans les stations thermales. Autant je crois qu'il faut le faire avec beaucoup de prudence et ne communiquer des résultats que lorsqu'on les a complètement validés. Je fais l'observation que ce qui vient de nous être démontré, autant au niveau de l'information concernant l'existence de ce projet et des méthodes qui sont mises en œuvre pour recueillir les informations présentes un intérêt particulier, doivent être soutenues. Ils sont d'ailleurs soutenus par la profession, mais au nom de la profession, je demande à ce qu'on communique avec prudence sur le résultat qui porte en l'occurrence sur un échantillonnage qui est extrêmement faible, très partiel, et qui, si on ne le commande pas et si on ne s'assure pas de la validité de ces résultats, pourrait être interprété d'une façon extrêmement négative par rapport à l'activité du thermalisme. On ne peut pas annoncer que 77% des curistes n'ont pas de conséquences indésirables ou d'effets indésirables de la cure, ce qui signifierait que pour un quart, ils ont des effets indésirables. Or, un des arguments de la médecine thermale, c'est non seulement son caractère naturel, mais c'est aussi l'absence de conséquences secondaires et donc d'effets indésirables. Je voulais juste faire cette observation. Probablement que les résultats de ce travail devront faire l'objet d'une communication. Probablement aussi que c'est une démarche qui doit conduire à généraliser le suivi épidémiologique à mettre en place, la veille épidémiologique à mettre en place sur les curistes. Mais je pense qu'il faut élaborer des filtres qui permettent de ne livrer des résultats qu'une fois qu'on aura répondu à la question à laquelle vous dites vous-même ne pas avoir répondu, qui est le lien de causalité entre la cure thermale et les effets qu'on a observés. Parce que sinon, les pourcentages qui sont indiqués là sont un petit peu affolants pour le professionnel que je suis. Merci.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit M. Tabonne, en tant que pharmaco-vigilant et spécialiste de la communication sur les risques liés aux médicaments, c'est un problème qui est débattu depuis de très très nombreuses années pour ce qui concerne le médicament. C'est vrai que la première diapo, quand on fait des courses, et tous les médicaments sont dangereux, quelques-uns sont également utiles, ou comme on dit en anglais, no pain, no gain, hein, il n'y a pas de bénéfice sans risque, ça c'est certain, et quelles que soient les circonstances. Mais je crois que c'est extrêmement important, et vous l'avez parfaitement dit, se voiler la face devant des risques, il y a toujours des risques. Dès qu'on met trois personnes dans la pièce, il y en a deux qui vont se taper dessus, à un moment ou à un autre. Dès qu'on met quelqu'un dans un bain, il peut se noyer. Dans une baignoire, on le sait bien, hein, on l'a vu à droite ou à gauche, donc il y a toujours des risques, et la surveillance du risque, et l'identification des risques pour les prévenir, pour les anticiper, pour les guérir, est la première des choses en termes de responsabilité. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on monte dans un avion, on a droit à la petite danse de la petite danse des hôtesses qui vous explique comment faire quand l'avion va s'écraser. Bon, c'est pas pour autant qu'il s'écrase. Il n'empêche que c'est ce qu'il y a de plus sûr au monde, les avions. Parce qu'on y fait attention et parce qu'on anticipe. Donc, oui, il faut faire attention à ce qu'on communique pour ne pas affoler les gens, et ça, c'est quelque chose de très, très important. Mais il ne faut surtout pas essayer de ne pas étudier ou de ne pas vouloir savoir.
J'ai pas souligné que ce travail, depuis le début, est soutenu par la FRET et que c'est des discussions avec les professionnels qui ont abouti à ce que cette étude se fasse. Donc je les remercie tous, et c'est vrai qu'on a eu un très bon accueil des médecins de Dax et de Saint-Paul qui ont tout de suite compris l'intérêt de l'étude, etc. Je tiens à préciser qu'on n'a jamais caché qu'on faisait cette étude, donc on en a parlé aux différents CR, etc. Donc voilà, donc effectivement tout à fait d'accord pour collaborer, pour que les médecins ne soient pas submergés d'études. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose à éviter si on veut qu'ils participent, ça c'est évident. Sinon, il y a effectivement un gros problème, on en a parlé entre nous, et effectivement, on ne va pas communiquer derrière sans solliciter justement les gens du domaine du thermalisme, ainsi que des équipes qui ont l'habitude de communiquer sur le risque. Parce que déjà, rien qu'en termes de terminologie, vous voyez, il y a le terme iatrogénie, il y a le terme effet indésirable, il y a le terme pathologie intercurrente, enfin, il y a plein de termes qui ne veulent pas dire la même chose qu'on peut utiliser. Donc, en fonction des sensibilités de chacun, dans l'équipe, on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. Donc, j'ai utilisé un peu tous les termes, on va dire, justement, parce que chacun veut dire des choses différentes. Et là où je veux vraiment insister, c'est qu'effectivement, là, c'était parce que je trouvais intéressant quand même de dire que ça y est, on a quand même quelques résultats, même si évidemment l'analyse n'est pas finie, donc c'est vraiment pour l'instant très préliminaire, et qu'une partie très intéressante, ce sera aussi d'analyser comment les médecins voient l'imputabilité des effets. Hein. On n'a pas utilisé une méthode autre que faire appel aux médecins, mais ils sont suffisamment bien placés, je pense, pour pouvoir évaluer un peu cette imputabilité, et puis évidemment les traitements pris par les patients, la pathologie qui justifie la cure thermale elle-même, etc., sont des choses sur lesquelles il faudra évidemment, bien sûr, s'appuyer. Donc ça, moi, c'est vrai que j'ai pas eu le même ressenti que M. Tabonne, parce qu'au contraire, je trouvais que les effets indésirables recensés pour l'instant sont quand même plutôt bénins et plutôt, je dirais, communautaires ou liés à la pathologie. On n'a pas pour l'instant de trop grosses inquiétudes sur leur lien avec les cures thermales. Mais bon, voilà.
globalement, quand on regarde les phénomènes d'oxydoréduction, qui sont certainement abiotiques et biotiques dans vos environnements, on peut s'attendre forcément à ce que les micro-organismes aient une intervention, en termes d'oxydation en particulier. Hein. Vous avez à la fois du fer qui peut passer sous la forme Fe3, Fe2+, et ça, ça peut se faire à la fois sous des contraintes physico-chimiques fortes, mais aussi sous des contraintes biologiques assez importantes. Et j'ai entendu parler en particulier d'entrée d'oxygène éventuellement dans le cadre d'exploitation thermale en particulier. Et l'oxygène va forcément avoir une influence dans le système, en oxydant tout le complexe géomicrobiologique, et très certainement, ces micro-organismes ont une influence importante à jouer, puisque d'après l'exposé qui a été fait, vous avez vu que globalement, on les retrouve sur tous les endroits de la planète. Et en particulier, il y a des espèces très précises, comme Thermus topolictus en particulier, qui sont précisément toujours au même endroit, dans les mêmes conditions physico-chimiques. Donc globalement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des modifications certaines en termes d'oxydation ou de réduction, si l'oxygène est présent éventuellement, ou s'il n'est pas en condition anaérobie, justement pour intervenir de ce point de vue-là. Très certainement. Surtout si la température en particulier reste, si vous voulez, du niveau de 60 degrés chaude. Forcément, alors évidemment, par contre, dans ce contexte-là, vous aurez des problèmes qui vont être beaucoup moins sensibles, en particulier si la salinité augmente, je pense à Saïs de Berne, par exemple. Alors là, vous avez des conditions physico-chimiques drastiques en termes d'évolution, d'adaptation. Et par exemple, la combinaison à la fois de la température et de la salinité sont des éléments qui sont incontestablement abiotiques en termes d'adaptation à la vie. Donc, ce qui veut dire par là, il faut être... Mais c'est vrai que, globalement, ces organismes ont certainement... Il faut en tenir compte parce que certainement la minéralité, l'état d'oxydoréduction et tous ces éléments-là, j'ai entendu parler ce matin, par exemple, professeur Vitale et du sulfure. Le sulfure, c'est produit par les bactéries sulfato-éductrices. Vous avez énormément de sulfato-éductrices dans les eaux thermales. Là, on vous a cité des sulfotomacnols Q-Detovii, qui est un sulfato-éducteur qu'on trouve dans les sources géothermales terrestres russes en particulier, et ailleurs dans le monde aussi. Donc, cette idée-là aussi de production de sulfure dans un contexte géomicrobiologique, c'est très certainement des choses à penser. Et aussi, le rôle peut-être indigène de certaines bactéries, c'est des choses à mettre en valeur en milieu thermal, peut-être, pourquoi pas. Il y a peut-être des activités antioxydantes, des choses qui sont intéressantes d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue pharmacologique, qu'il faudrait peut-être mettre en exergue, je dirais, par rapport à cet écosystème-là. Voilà.